Son de cloche tous les jeudis matins de 9h à 11h sur les ondes de Cheese 94.3 avec Augustin Becci.
Il contribue tous les jours à faire avancer la recherche scientifique, que ce soit sur le terrain, en laboratoire ou derrière leurs ordinateurs. Leurs découvertes et leurs idées nous aident à mieux comprendre le monde d'aujourd'hui et à anticiper le monde de demain. Ils sont étudiants ou chercheurs et viennent nous parler de leur projet dans Visage des sciences, une émission présentée par Océane Perrault, disponible en balado sur schiste.ca.
Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette émission de 3600 secondes d'histoire. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Vous me reconnaissez, Alex Tremblay-Lamarche. Aujourd'hui, 8 décembre, on a le plaisir de recevoir deux historiennes, Joséphine Marchand et Raoul Landurant. Je me reprends. On a le plaisir de recevoir deux historiennes, Marie Lavigne
et
Michel Stanton-Jean.
Stanton, pardon.
C'est
ça, Marie.
Et donc?
C'est-tu
ouvert? Oui, dans le fond, on est en onde. Donc, oui, on a le plaisir de recevoir Marie Lavigne et Michel Stanton-Jean pour une émission sur deux figures bien connues de l'histoire politique et de l'histoire des femmes du Québec. Joséphine Marchand et Raoul Dandurand. Nous les recevons ce soir à l'occasion de la parution de leur biographie Joséphine Marchand et Raoul Dandurand, amour politique et féminisme. Et donc, mesdames, première question qu'on aime bien poser pour débuter, comment vous est venu votre intérêt pour Joséphine Marchand et Raoul Dandurand?
Écoutez, ça nous, vous savez qu'on a fait, la biographie entre autres d'Idola Saint-Jean, le collectif Clio. Donc, nous avons, après, on s'est demandé qu'est-ce qu'on va faire et on a pensé à Joséphine Marchand Dandurand. Et là, pour aller un peu rapidement, nous avons eu accès à la correspondance parce que nous avions les mémoires de Raoul, nous avions le journal de Raoul, mais on a eu accès à la correspondance entre Raoul et Joséphine, qui est une correspondance qui a duré 40 ans à peu près, et qui a été presque quotidienne parce que, comme on le verra, Raoul voyageait beaucoup. Il était à Ottawa, il était à la Société des Nations, à Genève, etc. Donc, il écrivait presque tous les jours à Joséphine. Et là, on a découvert un couple qui avait une communication absolument incroyable, une communication qu'on pourrait qualifier de fusionnelle, qui s'entendait sur plein de sujets que nous allons évoquer un petit peu plus tard. Donc là, on a dit, si on faisait la biographie d'un couple qui a joyeusement mêlé vie privée et vie publique, de sorte qu'il y avait une telle connivence entre les deux, une telle fusion de vie privée et vie publique, ça nous a incité à faire leur histoire, l'histoire d'un couple.
Puis je pense qu'un autre élément qui nous intéressait, quiconque a vu l'histoire des femmes, on rencontre toujours des personnages en histoire, et le nom de Joséphine Dandurand était très, très présent, mais vraiment dans les pionnières du féminisme, parce que c'est quelqu'un qui est né en 1861, et c'est vraiment dans les toutes premières, avant les gens connus, avant Marie Gérin Lajoie, avant Thérèse Casgrain, avant Idola Saint-Jean, et finalement, on se demandait, c'est comme la première de toutes qui a émis des opinions sur les femmes, sur le devenir des femmes, mais c'est comme si personne n'avait cherché à aller au-delà des quelques brides d'informations que l'on avait de cette femme, et ça a suscité notre curiosité aussi. importante.
Avec raison, parce que c'est un très, très beau sujet. Et comme vous l'avez mentionné, ils sont tous deux nés en 1861. Et donc, on vous propose d'aller en musique avec une première pièce, Abid With Me Eventide, qui est une hymne chrétienne dont les paroles ont été écrites en 1847 par le poète anglican écossais Henry Francis Lyte, mais qui a été mis en musique en 1861, année de naissance de Joséphine Marchand et Raoul Dandurand, par le compositeur britannique William Henry Monk. Et donc, on y va avec cette hymne chrétien. Vous allez voir, c'est une hymne qui est souvent jouée dans le temps des fêtes en Angleterre. Toujours sur les ondes de Chiz 94.3, vous écoutez 3600 secondes d'histoire. On s'excuse pour le début un peu chaotique, on a eu quelques problèmes de console. Et ce soir, on a le plaisir de recevoir Michel Stanton-Jean et Marie Lavigne pour une émission autour de la biographie qu'elles viennent faire paraître de Joséphine Marchand et de Raoul Dandurand, publiée chez Boréal. On est très heureux de les recevoir. Ceux qui me connaissent savent que bon, j'ai une affection particulière pour les personnes puisque j'ai consacré mon mémoire de maîtrise au papa de Joséphine Marchand, Félix Gabriel, dont on reparlera tout à l'heure. C'est une biographie conjointe, ce qui est un choix quand même assez inhabituel. La plupart du temps, on va s'intéresser à un personnage ou à la rigueur, on va faire de la prosopographie. Mais dans ce cas-ci, on suit vraiment la vie de Joséphine parallèlement à la vie de Raoul tout au long. Qu'est-ce qui explique ce choix?
Ben, Je dirais qu'au début, notre idée était, de davantage travailler sur Joséphine Marchand. Mmh. Et très rapidement, on s'est rendu compte qu'il était très difficile de faire la biographie de l'une sans voir l'autre. Et c'est... Ce qui intéressait Joséphine intéressait Raoul et vice-versa. Tous les deux étaient des passionnés de politique, des passionnés de culture, des passionnés de langue française. Et finalement, c'était de très grands amoureux qui se sont écrits plus de 700 lettres qu'on retrouve. Alors, des échanges épistolaires très, très riches et... C'est pas intéressant hein, de dire qu'en arrière de tout grand homme, il y a une grande femme, ni en arrière de toute grande femme, il y a un grand homme. Et dans les faits, c'était de dire ben, il ne faut pas utiliser l'autre comme étant le faire-valoir de l'autre. Hein. Donc, c'était un destin trop intimement interrelié et qui nous permettait de faire une chose qui est rare, c'est-à-dire de voir comment la vie publique, la vie privée s'entremêlent, comment les sphères mmh. s'entremêlent et comment les intérêts de deux personnes profondément respectueuses l'une de l'autre et deux personnes qui ont développé un rapport très, très égalitaire, comment tu reconstruis tout cela ensemble. Alors, c'est aussi un éclairage sur vie de couple, chose que l'on voit ouais, pas très souvent.
Et c'est fort intéressant. Et bon, on va le voir, ils travaillent en équipe tout au long de leur vie et c'est ce qui fait leur intérêt. On a brièvement mentionné le papa de Joséphine Marchand, Félix Gabriel. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du milieu dans lequel ils sont nés tous les deux?
Oui, Joséphine est née, on sait, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Là. Et donc, Félix Gabriel Marchand est entré en politique assez jeune, mais c'était aussi au début un gentleman farmer. Il a même élevé des chevaux à la ferme Beauchamp. Et il s'est rapidement intéressé à la politique et à la littérature et à la littérature aussi. Il a publié des pièces au cours de sa vie. Mmh. Et donc, c'était dans une famille libérale, il faut le dire, là, libérale, et aussi une famille progressiste où Joséphine fouillait dans la bibliothèque de son père pour lire tous les livres qui étaient là. Ce sera toute sa vie une très, très grande lectrice. Ce sera d'ailleurs une convergence avec Raoul.
C'est ça. Et du côté de Raoul?
Oui.
Du côté de Raoul, lui, Raoul vient d'un milieu probablement quand même plus modeste que Joséphine. Lui, il est vraiment un urbain. La côte du Beaver Hall à Montréal, là, c'est le cœur de la cité. C'est difficile de penser qu'on pouvait avoir des chevaux sur cette côte-là à l'époque. Et son père, qui est plutôt un jack of all trades, comme on dit, là, qui a fait 56 métiers, mais est arrivé en ville très, très jeune et était passionné de politique avec ses cousins. Ses cousins qui sont les frères d'Outre. Alors, les d'Outre, ce sont des libéraux radicaux, des présidents l'un et l'autre successivement de l'Institut canadien de Montréal et qui sont aussi... Joseph d'Outre est un anticlérical notoire, mais c'est des gens... Et Joseph d'Outre a aussi écrit. C'est donc... Raoul, enfant, était destiné au commerce. C'était clair, son papa a dit au plateau, t'étudies le commerce. À 14 ans, il était prêt à partir travailler et à la banque de la cité du district de Montréal. Et l'oncle Joseph dit, écoute, ton petit gars est ben trop brillant, il peut continuer des études. Et il dit, s'il étudie et s'il décide d'aller en droit, je le prendrai à mon cabinet.
Mais Raoul n'aimait pas les études. À cette époque. Non, il raconte qu'il était un enfant turbulent, qu'on retrouvait dans les arbres ou au fond de l'eau et que ça inquiétait beaucoup sa mère. Donc, comme dit Marie, il décide quand même de faire son cours classique qu'il fait en très, très rapidement, en 3 ou 4 ans au lieu de 8 ans presque, parce qu'il avait quand même une bonne base. Il dit même qu'il a toujours regretté toute sa vie de ne pas être allé plus loin dans ces études-là. Et ensuite, il va faire sa cléricature avec Doutre. Il va obtenir son barreau. Et donc, Doutre va beaucoup l'influencer dans sa vie. Parce que, d'une part, il admire la fougue de Doutre et tout ce qu'il fait dans sa vie, dont la cause de libraire Guibord qu'on ne veut pas enterrer. Il raconte qu'à son collège où il était, Raoul, il a vu passer le cortège qui amenait Guibord à ses funérailles. Et ça l'a beaucoup impressionné. Et donc, il passait ses soirées, dit-il, à discuter avec d'autres. Ça l'a beaucoup marqué. En même temps, ça l'a peut-être appris à pondérer un certain nombre de choses. Parce qu'il raconte un jour que d'autres disent, des fois, il faut peut-être faire des concessions, il ne faut peut-être pas aller aussi loin que je suis allé. Alors, ça a été un petit peu sa façon de fonctionner à Raoul un petit peu plus tard dans la négociation, la médiation, etc.
Et du côté de Joséphine, là, on a vu un petit peu que Raoul est formé à la politique via son père, via également d'autres. Mais Joséphine, quand est-ce qu'elle commence à s'intéresser à la politique?
Ben, je pense qu'elle commence très, très jeune parce que, le père, comme son père, devient politicien en 1867 au premier Parlement lorsque la Confédération est née. Et son père aussi a fondé, co-fondateur de journal qui existe toujours à Saint-Jean, qui est le Canada français. Et c'est une famille où l'on parle toujours de politique. De l'autre côté de la rivière, Honoré Mercier est là. Honoré Mercier est député. Là, ces gens-là, ça se voisine. Donc, c'est une famille vraiment dans la politique. Et là, on dit, lorsqu'ils se découvrent tous les deux, ils se rencontrent d'ailleurs chez Honoré Mercier, qui reçoit souvent des jeunes libéraux, des jeunes militants. Et Honoré Mercier Raoul a à la main le courrier...
des États-Unis.
Le courrier des États-Unis, qui est un journal que le clergé n'aime pas du tout, qui est un journal français publié aux États-Unis par des Français plutôt anticléricaux. Et là, il commence à parler de politique. Et de telle sorte que lorsqu'ils se fréquentent, tout le monde dit « on ne nous entend parler que de politique ». Alors, c'est avant de tomber en amour, s'ils sont en amour tous les deux avec la politique.
Effectivement. Et quelle impression crée-t-il l'un chez l'autre? À partir de quand commence-t-il à avoir de l'intérêt plus que pour la politique?
Ben, il se voit en 82, là, comme dit Marie, chez Mercier. Et Raoul, dans ses mémoires, dit qu'il avait lu certains petits articles de Joseph, qui était un pseudonyme de Joséphine. Et qu'elle lui avait semblé, quand il l'avait vue, assez froide. Et elle dit de son côté, je sais que les gens me trouvent assez froide au premier abord, mais quand même, quand on me connaît mieux, bon, elle dit pas comme ça, mais je me réchauffe dans le fond. Et donc, c'est vraiment un dialogue qui contient la politique, la littérature, l'intelligence et l'éducation, toutes les choses qu'ils vont poursuivre dans leur vie. Et c'est ça qu'elle dit. Notre devise devrait être intelligence et science plutôt que l'amour. Quelque chose comme ça. Que ce soit là notre devise. Donc, c'est vraiment basé sur ça, leur vie. C'est très fort, cette connivence sur les causes qu'ils vont traiter par la suite.
Et c'est quelque chose de particulièrement intéressant dans votre livre parce que, bon, on voit bien la relation entre les deux parce qu'on était capable de la documenter grâce à la correspondance et au journal intime. C'est quand même assez exceptionnel que vous ayez été capable de documenter autant une relation.
Oui, bien, c'est un journal intime assez exceptionnel qui a été publié, d'ailleurs, en l'an 2000. Journal intime qui, il y a très peu, il y a Henriette Dessaulles qui en a eu un, mais c'est assez rare. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est un journal intime qu'elle a continué après le mariage. Donc, ce qui est un phénomène aussi très rare. Donc, c'est documenté à la fois par les lettres. Et puis, il y a un autre regard aussi intéressant, c'est que une base de leur échange, c'est la lecture, c'est l'amour des livres. Alors, c'est des commentaires sur le livre. Et ils s'envoient presque des messages à travers les livres et se prêtent des livres l'un et l'autre. Et donc, c'est une vie intellectuelle extrêmement riche entre tous les deux.
Et comme vous le mentionnez, ils en arrivent au mariage. Comment se déroule leur mariage? Et j'aurais peut-être même envie d'être indiscret, leur nuit de noces.
Ah ben là, la nuit de noces, c'est quelque chose. La nuit de noces, elle en parle un
ça
petit peu.
Ça ne tente pas de parler du mariage avant la nuit de noces?
Oui, c'est ça. Ben, ouais, le mariage, ben, ils se marient en janvier. À ce moment-là aussi, ils se font vacciner parce qu'il y a l'épidémie de variole. Joséphine est un petit peu inquiète, mais comme ils veulent aller en voyage à New York, elle doit se faire vacciner. Puis, d'ailleurs, la famille se fait vacciner. Ils se marient en janvier par une journée très froide. Je pense qu'il fait moins 30 ou quelque chose comme ça. Ils prennent un train pour New York. Et là, elle raconte un peu... faut dire qu'ils se sont fréquentés pendant presque 5 ans. Elle voulait pas se marier tout de suite. Elle voulait attendre. C'est très long, les fréquentations. Lui était plus anxieux de se marier. Mais elle met beaucoup de temps à faire connaissance de monsieur Dandurand, qui finalement, elle appelle Raoul. Elle a un autre amour dans sa vie, un médecin qu'elle rencontre, et puis, bon, ça ne dure pas. Elle a une retraite fermée où sa tante religieuse et son confesseur lui disent qu'elle ne pourra pas marier Raoul s'il ne pratique pas, parce qu'il n'est pas très chaud sur la religion. Et elle n'en dort pas, elle pleure toute la nuit. Finalement, elle dit, ben j'ai parlé à Raoul, et puis, bon, il va faire toutes les choses comme il faut, bien que nous, on a beaucoup de doutes sur ça. Sa croyance religieuse. Donc, ça, c'est les fréquentations. Et là, le mariage, bien, la nuit de noces, elle est un peu effrayée, tétanisée, si on peut dire, comme j'imagine bien des femmes à cette époque. Et lui, lui dit, bien, écoute, on va attendre. On va prendre notre temps, on va... Et dans le manuscrit du journal intime qu'on a consulté, il y a beaucoup de choses qui sont caviardées. On ne sait pas qui les a caviardées, par exemple. Est-ce que c'est Raoul? Est-ce que c'est elle-même? Et tout ça. Et là, on a essayé de décoder ce qui s'était passé durant la nuit, mais on n'y est pas arrivé. Donc, elle dit qu'elle va devenir femme seulement quelques semaines après.
Oui, bien, tu sais que dans les faits, on a décodé ce qui n'était pas arrivé durant la nuit de noces. Parce ça. Que ce qu'elle espère, dans les faits, j'ai fait un rêve fou. C'est que pour que nous puissions demeurer amis. Pourquoi Raoul ne se... Est-ce qu'on ne resterait pas amis durant 2 ans? Ça veut dire, pourquoi est-ce qu'on est obligé de faire l'amour, là? Alors, elle revient toujours sur le devoir, et ce devoir, tout le monde, les cousines, tout le monde là, lui dit, écoute, c'est pas drôle, là, ce qui va t'arriver, ce n'est pas drôle. Donc, elle n'a pas le goût de vivre ça. Hein? Bon,
et elle a une crainte de la parentalité aussi.
Bien, c'est ça. Ils auront la fille quand même. Ils se marient en janvier 86 et elle va naître, la fille, à la fin de l'année, là, Gabrielle. Ils n'auront qu'une fille, hein, comme vous savez. Mais on peut se poser la question. Elle voit l'enfant qui va arriver comme un intrus. Elle nomme ça, c'est l'intrus qui va être dans notre vie. Lorsqu'ils font le contrat de mariage et que lui veut parler, si on meurt puis les enfants sont là, elle dit, je ne sais pas pourquoi il a parlé des enfants, c'est tellement loin pour moi. Donc, c'est pas, on peut se poser la question, est-ce que ça l'avait vécu de nos jours, elle aurait eu des enfants, on ne sait pas. Mais bon, cet intrus arrive et là, elle se sent maternelle, elle s'en occupe, elle fait un plan énorme d'éducation pour sa fille qui va apprendre à peu près tout ce qui existe sur la planète. On voit tout de suite sa préoccupation pour l'éducation. Et donc, elle s'est investie là-dedans, mais elle dira... pas très longtemps après, que bon, on aurait pu se passer d'avoir un enfant, parce que ça change un peu beaucoup notre vie et tout ça. Donc, c'est pas ce qu'on lit à l'époque. On se marie pour avoir une tonne d'enfants, mais ça, elle dit ça dans son journal, bien sûr, c'est pas publiquement. Mais bon, on peut se poser la question.
Effectivement. Et donc, forcément, le mariage et l'arrivée de Gabrielle, leur fille, les amène à réorienter un peu leur carrière, mais ça n'empêche pas Joséphine Marchand de fonder Le Coin du Feu.
C'est-à-dire que là où il n'y a pas trop de réorientation de carrière, devons-nous dire, c'est que... d'abord, au début, Raoul trouve que Joséphine est un phénomène, effectivement. Au 19e siècle, une fille qui, à l'âge de 16 ans, publie dans un journal, puis même Honoré Mercier fait publier ses textes dans d'autres journaux, c'est un phénomène. Et elle n'a aucune... absolument pas l'intention d'arrêter de faire du journalisme. Elle est une journaliste à la pige et elle se marie et elle continue à travailler. Alors que normalement, les gens... Alors, elle a un bébé, puis elle continue à écrire, à travailler, à publier. Et elle publie un recueil qui s'appelle « Les contes de Noël » qu'elle avait fait, ce qui aussi s'enligne un peu dans une consécration. Dès ce moment-là, on comprend qu'on devient un auteur consacré si... on publie sous la forme d'un livre et non uniquement des contes ou des textes dans des journaux. Donc, déjà, elle fait ça et elle se retrouve dans un but d'éducation. Effectivement, elle décide de lancer une revue destinée aux femmes qui va parler d'un ensemble de sujets, mais autant de littérature, de points de vue politiques, de différents aspects. Et à ce moment-là, c'est vraiment un point tournant. C'est le premier journal, c'est-à-dire la première revue destinée aux femmes au Québec et qui est fondée en 1893. Elle dit qu'elle la fonde avec d'autres, peut-être, mais elle fait vraiment tout. La revue de A à Z durant 4 ans de façon systématique. Donc, à certains égards, on dit beaucoup que Robertine Barry est la première journaliste canadienne-française, mais aussi, c'est que Joséphine est aussi la première. La différence, c'est que Robertine travaille à plein temps dans un journal à La Patrie et Joséphine Marchand d'Endurant, elle est finalement pigiste et fonde son propre journal. Donc, mais et toutes les deux sont de grandes amies d'ailleurs, mais c'est vraiment les deux premières journalistes canadiennes-françaises.
Et sur ce, on s'en va en musique avec une pièce intitulée « Rêverie » qui a été composée par le compositeur canadien-français Guillaume Couture en 1875 sur un poème d'Alphonse de Lamartine, l'un des poètes favoris de Joséphine Marchand.
Vous écoutez CHIZ 94.3 FM à Québec.
Salut, mon nom c'est Félix Duchesne et je suis votre animateur de l'émission Chérie J'arrive. On parle d'art et de culture à tous les jours de la semaine de 16h à 17h30 pour le retour à la maison. Et si vous voulez être sûr de rien manquer des nouvelles d'art et de culture cet automne, j'ai monté une superbe équipe de chroniqueuses et de chroniqueurs pour me parler de cinéma, de théâtre, de poésie, de musique, de variété. On va parler de tous les sujets. Manquez pas, Chérie J'arrive, c'est tous les jours de la semaine de 16h à 17h30 sur les ondes de CHIZ 94.3.
Hey Pat, qu'est-ce que Jean Leloup, Jane Austen et Salvador Dali ont en commun?
Des cheveux?
Ben, j'allais plutôt dire qu'ils peuvent toutes nous apprendre de grandes et de petites choses sur la vie grâce à leur rapport créatif et intellectuel dans leurs disciplines respectives.
Ah, donc c'est pour ça qu'on parle d'eux à la Planète des Sages, l'émission qui, chaque semaine, s'intéresse à la pensée d'une figure populaire afin d'en retirer un peu de sagesse.
Rendez-vous les jeudis 11h sur les ondes de CHIZ 94.3.
Fait que les cheveux, c'était pas bon?
Non, c'était...
Sur une distance de 20 verres, la Coupe Vanier au bout du pied.
C'est la mort!
À le frapper solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
La fin de semaine arrive et vous avez besoin de suggestions pour accompagner votre souper du samedi? L'Espace JC est là pour vous donner des conseils et vous en apprendre plus sur les vins, bières et spiritueux. En compagnie d'experts, nous vous divertirons tout en humour et sans prétention pour votre plus grand bonheur. L'Espace JC, c'est tous les vendredis dès 22h seulement sur les ondes de Chiz 94.3.
Ici Marie-Antoinette, épouse de Louis XVI et reine de France. Vous écoutez 3600 secondes d'histoire sur les ondes de Chiz 94,3 FM. Oh!
Toujours sur les ondes de Chiz 94.3, comme vient de nous le rappeler Marie-Antoinette elle-même. On est ce soir en compagnie de Michel Stanton-Jean et Marie Lavigne pour parler de leur plus récent ouvrage « Joséphine Marchand et Raoul Dandurand, amour politique et féminisme ». On a vu juste avant la pause le parcours des deux personnages de leur enfance très politisés et jusqu'à leur mariage, puis bon, à l'arrivée de leur fille. Et parallèlement, justement, bon, aux activités de journaliste de Joséphine, il y a bon, un engagement très, très marqué dans le milieu féministe dans les années 1880 et 90. Et j'ai même envie de dire que c'est pas tant parallèle, c'est plus l'un rejoint l'autre et les deux se font de façon concomitante.
Oui, le coin du feu aborde plusieurs sujets qui concernent les femmes. Je sais pas, moi, l'arrivée de la bicyclette, il y a toute une polémique autour de ça. Et il y a plein de correspondants étrangers aussi qu'elle a sollicités. Mais bon, en 1893, arrive un nouveau gouverneur général avec son épouse, qui est Lady Isabel Aberdeen. Apparemment, une très belle femme et engagée dans la cause des femmes et qui fonde ici le Conseil national des femmes du Canada en 1893. Et Joséphine la rencontre dans une réunion. Elle lui est présentée. Et il faut dire que Joséphine et Raoul sont tous deux parfaitement bilingues. Hein? Bon, vous connaissez la généalogie et tout ça. Et donc, elle a une admiration, beaucoup d'admiration pour Lady Aberdeen. Elle dit même que ça l'a tirée de sa vie, un peu de sa solitude. Et il y a vraiment une connivence dans leurs idées, qu'on peut dire. Elle dit même, Joséphine, que ça l'a aidée parce que ici, les femmes peuvent vivre la vie la plus plate qui soit. Elle dit ça dans son journal. Et là, donc, elle fait des conférences aux réunions du Conseil national des femmes. Et le clergé n'aime pas beaucoup cette nouvelle association. Et donc, il n'y a pas de regroupements qui en font partie. Ce sont souvent des individus, comme Joséphine en fait partie, Marie-Gérin Lajoie, Madame Thibaudeau. Donc, ils suivent les activités. Elle a des fonctions dans le Conseil national des femmes du Canada. Se font aussi une section montréalaise. Et là, ça va déboucher tranquillement vers un regroupement des femmes du Québec via l'association Saint-Jean-Baptiste d'abord. Et après, elles fonderont la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste là, en 1907. Donc, c'est à peu près les débuts du féminisme. Mais il ne faut pas oublier quand elle a fondé le Coin du Feu, elle dit « Les hommes ont bien leur club, donc nous, on peut avoir notre journal. » Donc, elle était quand même assez allumée sur la question des femmes.
Et elle n'était pas seulement allumée sur la question des femmes, elle était aussi une habile politicienne, si je peux m'exprimer ainsi, puisque en 1898, lorsque son mari est nommé au Sénat, bien, elle n'est pas très loin derrière cette nomination-là.
Ouais, on dirait même qu'elle est très, très proche.
Très proche.
Très, très proche. Ce qui arrive, c'est que Raoul Dandurand est un organisateur, il s'avère être un organisateur politique hors pair. Et il a organisé pour toute la région de Montréal, mais qui comprend autant Saint-Jean et Terrebonne, tout ça, la campagne de Wilfrid Laurier. Et en 1896, les libéraux prennent le pouvoir à Ottawa, la première fois depuis la Confédération. Et là, on se retrouve avec Laurier. Et quelques mois plus tard, pour l'année suivante, C'est aussi la campagne électorale de Félix Gabriel Marchand, le père de Joséphine. Et évidemment, les organisations libérales sont les mêmes. Il ne faut pas oublier, hein, c'est le même parti au provincial qu'au fédéral à l'époque. Et ben, Raoul refait le même travail et il se retrouve en 97 avec le père de Joséphine qui est maintenant premier ministre du Québec et Raoul qui a été vraiment un élément majeur pour l'élection de Wilfrid Laurier à Ottawa. Mais Raoul continue sa profession, puis Joséphine lui dit, écoute, à un moment donné, là, tout le monde est nommé à quelque part. Mais comme c'est un jeune, il est assez radical quand même. Laurier est le gars qui temporise, et son beau-père aussi est un homme qui temporise les choses. Les gens ont un peu peur de ce jeune loup qui est pour l'école obligatoire, l'école laïque, son anticléricalisme ressort assez facilement. Alors, ils n'osent pas le nommer, ils n'y ont jamais offert de comté. Mais là, elle a dit, ça suffit, là. Et là, elle commence une campagne et intervient même auprès de Lady Aberdeen, qu'elle connaît bien, et écrit à Lady Aberdeen, puisque le premier ministre doit demander au gouverneur général. Et elle est vraiment aussi très gouverneur général. Elle aussi, c'est une femme de très, très grande influence, que Raoul soit nommé sénateur, puisque le district est libre à ce moment-là, qu'il devienne
Mais il ne veut pas, lui. Il lui dit... Mais non, moi, je suis beaucoup trop jeune. Les sénateurs, c'est toutes des vieilles barbes. Et donc, elle dit, tu es mon candidat. Et je pense que quelques jours après, dans un journal, on dit que peut-être que Raoul va être nommé sénateur. Il dit, ben, tu as vu ça? Elle dit, c'est moi qui ai communiqué avec le journal. Et ce qui est intéressant ici, c'est que lui, dans ses mémoires, il avait intitulé son chapitre sur sa nomination au Sénat, qui s'appelle « Sénateur », le chapitre. Il avait intitulé ça « Ma femme, bonheur conjugal », avec comme sous-titre « Du rôle des femmes dans la carrière politique de leur mari ».
C'est parlant.
Hein? Bon, c'est pas mal, hein? Mais attendez, ça c'est coupé. On le retrouve pas dans les mémoires. Et ça s'appelle « Ma nomination au Sénat ». Alors, c'est intéressant de voir cette invisibilité des femmes. Ça a été enlevé.
C'était
quand même impressionnant comme titre. Hein? Le rôle des femmes dans la carrière politique.
Néanmoins, Raoul va le reconnaître dans ses mémoires et en disant, n'eût été du travail de ma femme, de son influence, jamais je n'aurais été nommé sénateur. Mais pour lui, c'est absolument extraordinaire parce que ça lui permet d'être au Sénat. Ça lui donne une liberté qu'il n'aurait jamais eue comme député, encore moins comme ministre. Et c'est un homme qui aime la politique et intervenir. Donc, il intervient sur à peu près tout et intervient beaucoup sur des sujets avec lesquels Wilfrid Laurier n'est pas d'accord du tout. Il est notamment contre la guerre impérialiste en Afrique du Sud et il chipote Laurier là-dessus en disant que c'est totalement inadmissible que nous allions contre le temps de la guerre des Bourgs, qu'on aille contre
une minorité.
Contre une minorité, empêcher une minorité. Bon, là-dessus, il est très, 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 très engagé. Donc, ce n'est pas un homme de Laurier. C'est un libéral de la longue tradition des Rouges qui continue. Son premier discours à Ottawa est un discours en français, ce qui surprend passablement et qui fait que beaucoup de monde ne le comprend sûrement pas non plus. Mais c'est vraiment une nouvelle vie qui commence pour le couple. Mais pour Raoul, ça ouvre des horizons absolument fantastiques parce que ça va être un citoyen engagé dans tout plein de causes.
Effectivement, et ces causes-là, est-ce que vous pouvez m'en partager quelques-unes? Il y a la langue française qu'on a déjà mentionnée, mais quelles sont les autres?
L'éducation.
L'éducation, oui.
L'éducation, là, ils sont tous les deux là-dedans, jusqu'aux oreilles, on pourrait dire, de sorte que Raoul, comme on sait, était pour une éducation laïque et... En plus, tous les deux trouvaient que la qualité de l'éducation, c'était très mauvais au Québec. Quand Raoul va mourir, là, Jean-Charles Harvé a écrit dans le jour « Un apôtre de l'éducation est mort ». Donc, il dit à Raoul, ben, je vais fonder un journal, de quoi je devrais traiter? À votre point de vue, sur quel point dois-je insister? Raoul répond, sur l'éducation et l'instruction. Et il dit à Jean-Charles Harvé, n'oubliez pas que chaque fois que vous touchez à l'école, au collège, au couvent, à l'université, vous touchez à une chose considérée chez nous comme intangible. Le laïc qui s'y aventure prend l'allure d'un intrus dont on se défie et s'il va trop loin, on cherche à le détruire. Alors c'est quand même, ça résume bien. Alors là, ils sont tous les deux dans des batailles pour l'éducation. Joséphine pour l'éducation des filles. Lui pour l'enrichissement des carrières des professeurs. Il va faire plein de choses. Il va présider une commission d'enquête sur l'éducation entre 1909 et 11. Que suite au grand discours que faisait toujours Godefroy Langlois à la Chambre pour dire « ça nous prend un ministère de l'Éducation, ça nous prend qu'on améliore la carrière, les émoluments des professeurs et leur formation, etc. » Donc, finalement, on fait cette commission et le premier ministre Gouin donnera pas beaucoup de suite à cette commission, mais quand même, la tangente par laquelle il y aura des progrès, c'est plutôt par l'éducation technique, les écoles professionnelles, où là, il peut y avoir parfois des professeurs laïcs et tout. Et ce sera, dans le fond, une façon d'arriver à faire avancer la formation des étudiants. Mais là, il est dans des batailles absolument incroyables où un jésuite, le père Lalande, je crois, dit « Bien, écoutez, si tout le monde est instruit, on n'aura plus de vidangeurs. » Alors, Raoul dit, ben, ouais. je souhaite que nous ne soyons pas les vidangeurs du Canada, quelque chose comme ça. Alors, donc, c'est des très, très grosses batailles. Il fait, plus tard, là, en 1919, il va faire un grand discours au Club de réforme. Il va démarrer une pétition où il va y avoir 100 personnes qui vont la signer, mais c'est toujours bloqué un peu par Bruchesi, que Joséphine qualifie de petite grâce prétentieuse, à peu près. Donc, ouais, les batailles pour l'éducation des deux sont absolument incroyables. Pour l'ouverture du collège pour les filles, elles s'impliquent, le collège d'enseignement, qu'on n'appelle pas collège, qu'on appelle école d'enseignement supérieur pour les filles, pour ne pas dire le mot collège. Donc, c'est leur grande cause, parce qu'on peut qualifier même leur implication en culture aussi quasiment d'éducation, hein, si tu veux continuer sur la culture.
Oui, mais dans ces grandes... Puis, Michel vient de parler de... Lorsqu'il fait cette pétition de 100 signatures, mais les 100 signataires sont les 100 personnes les plus prestigieuses du Québec. Hein. C'est pas ton voisin, mon voisin. Et ça, ça replace aussi comment... Quelle est la position de Raoul dans la société québécoise? Donc, il est devenu indépendant de fortune, Raoul, assez rapidement, autour des années 90, à cause de son cousin d'Endurant, qui, lui, celui qui a la première voiture à Montréal. Bon, la première voiture au Québec est à Québec, on le sait, et la deuxième, c'est le promoteur d'Endurant. Oui, oui, c'est ça. Donc, mais c'est vraiment le début. Mais il y a un cousin qui a le sens des affaires. Mais Raoul, comme il a fait l'école commerciale avant le cours classique, est aussi un gars qui n'a pas de problème à faire des affaires. Et c'est la période d'un développement urbain important, donc il est amené à investir dans les quartiers qui se développeront. Et ce qui fait que tous les deux, ils n'étaient pas riches au moment du mariage. Ils étaient même assez pauvres. Et tous les deux vont avoir une vie à être indépendants de fortune parce que c'est évident que ce n'est pas le salaire au Sénat ou les droits d'auteur de Joséphine qui leur permettent de vivre. Et à ce moment-là, il a... Des liens et une situation financière très confortable qui l'amène à devenir président de la banque de la cité et du district de Montréal et présidence qui va occuper jusqu'à la fin de ses jours. Cette même banque où son père le destinait comme commis à l'âge de 14 ans, il en devient le président. Donc, il fraye le milieu des affaires, mais c'est toute une période où des Canadiens français disent « Nous sommes capables de construire » et c'est la naissance des les HEC, études commerciales, et Esdras Mainville par la suite qui parle vraiment toute une période où on veut se prendre en main et on arrête d'avoir peur de l'argent. Donc, c'est... Bon, la peur va revenir régulièrement, là, mais c'est une période de prise en charge économique assez intéressante. Et il faut dire aussi qu'au début du 20e siècle, jusqu'à la guerre de 14, c'est une période de grande prospérité économique.
Effectivement.
Mais lui, il avait quand même une formation un peu, hein, comme il est allé au plateau, au cours commercial. Il va accompagner déjà au début de sa carrière Mercier pour une mission commerciale. Là, il fait plusieurs missions commerciales comme ça au cours de sa carrière. Donc, c'est vraiment intéressant aussi.
Il va s'imposer effectivement en diplomatie. Et en lisant votre ouvrage, j'ai trouvé un peu curieux, mais intéressant surtout que vous titriez le 7e chapitre Joséphine, la diplomate, et le 10e, Raoul, le féministe, alors que, bon, souvent, lorsqu'on pense aux féministes, on pense à Joséphine, et lorsqu'on pense aux diplomates, on pense à Raoul. J'aimerais ça vous entendre un petit peu plus sur ce choix et aussi sur comment l'un complète l'autre et que, bon, au final, on a un peu tard de penser que c'est Joséphine, la féministe, et que Raoul est le diplomate, alors qu'ils le sont tous les deux.
Oh, tout à fait. D'ailleurs, il commence à avoir une littérature sur la participation des femmes à la diplomatie. Il y aurait certains livres qui sont sortis dernièrement sur le sujet. Et dans le fond, c'est, vous avez raison, c'est tout à fait comme ça. Donc, Raoul est le seul homme présent à la fondation du Conseil provincial du suffrage en 1922. Sa fille est là et lui, il est là. Et il dit aux femmes, faites attention, n'allez pas trop vite, faut surveiller ceci, cela. Puis elles disent, ben il a bien raison, mais il est le seul homme qui est là. Quand il est nommé, il est au Sénat, il y aura bien sûr, en 1917 et 18, le vote des femmes donné à une partie des femmes en premier et ensuite aux Canadiennes, sauf évidemment les Autochtones et les Japonais, je crois. Mais bon, il fait un discours, un très beau discours au Sénat pour appuyer en 18 le vote des femmes. Et il dit là-dedans, c'est un élément très important de notre société et nous, les hommes, on n'a pas bien traité les femmes. C'est à peu près ce qu'il dit et on n'a peut-être pas compris à quel point elles étaient importantes. Et quand va être nommée la première sénatrice, ils vont encore faire un discours de bienvenue de cette première sénatrice en disant c'est très important d'avoir les femmes au sein du Sénat, etc. Donc, il y a plusieurs endroits comme ça, d'ailleurs, à la Société des Nations, lors de la phase, quand ils ont fait le protocole de Genève, il va aussi pousser pour que les femmes participent au Bureau international du travail, le salaire égal à travail égal, etc. Donc, beaucoup de choses comme ça qui démontrent qu'il est féministe et que Joséphine est diplomate. Mais Marie peut peut-être prendre quelques...
Bien, là où Joséphine est diplomate, c'est très tôt, c'est elle qui accompagne son père lorsque son père est premier ministre, qui doit aller voir le président américain. Et d'ailleurs, c'est quand même impressionnant, là, un premier ministre du Québec qui rencontre... et puis, elle est là, la rencontre, elle y va avec lui. Et puis, lui, des fois, il a plus le goût... Elle dit, je suis obligée de les surveiller parce qu'ils ont plus le goût de se promener, de regarder, de visiter que de faire du travail diplomatique. Mais véritablement, elle est là, elle rencontre. Elle sera aussi à la rencontre au moment de l'élection de Roosevelt. Elle accompagne Raoul, mais tu sais, c'est quand même rare, là, une Québécoise qui rencontre deux présidents américains. Donc, elle est très impliquée dans la démarche de la politique. De la diplomatie. Le rôle de président du Sénat que tiendra Cora Raoul, il y a aussi le rôle des femmes qui est extrêmement important parce que le lieu de socialisation et de discussion, c'est dans les salons du Sénat. Les salons du Sénat où se rencontrent les sénateurs, mais aussi les députés, les ministres et où on discute de plein de choses. Mais ceux qui sont responsables de l'organisation des activités des salons du Sénat, c'est Madame la présidente du Sénat. Et donc, Joséphine a décidé que cela aussi se ferait à l'enseigne de la culture et fait la promotion de la culture québécoise et même produira une pièce de théâtre qu'elle a écrite. Donc, ça là-dessus, ce rôle de liaison. Et un autre élément qui est beaucoup moins connu, c'est de voir, il y a, dès la fin du 19e siècle, se mettre sur pied des grandes associations féministes internationales. ses contacts avec le Conseil national des femmes, où elle est une militante, où elle est vice-présidente de la section québécoise, ses contacts l'amènent finalement à être en lien avec le Conseil des femmes du Canada, mais aussi donc, et toujours ces liens qui sont très, très proches de liens parlementaires, mais aussi avec le Conseil international des femmes. Et à tel point que, à l'Exposition universelle de Paris, en 1900, elle est nommée commissaire pour les femmes canadiennes à Paris. C'est pas Raoul. Raoul suit la délégation, mais elle est vraiment commissaire. Et travaille à plein temps, qui est de faire connaître les femmes canadiennes. Mais là, il y a toutes les rencontres internationales. Donc, régulièrement, les liens, les gens qu'elle a rencontrés pour créer, on parlera peut-être, l'œuvre des livres gratuits, mais les gens, tous ses contacts dans son coin du feu, les artistes européens, les écrivains européens qui écrivaient, ben, chaque fois qu'elle retourne en France, ben, Raoul les découvre. Elle fait connaître à Raoul ces gens. Mais c'est quand même un clin d'œil comme titre, hein, parce que Raoul est un très fin diplomate.
Les deux le sont.
Mais c'est de dire que, dans les faits, il y a tout un réseau de connexions sur lequel Raoul a pu naviguer constamment. Et c'est beaucoup cela qui se produit dans toute l'histoire de la diplomatie. Ouais. C'est ça. Avant que toute la diplomatie devienne une diplomatie salariée, il y avait tous ces gens autour qui ont été finalement des diplomates sans avoir le salaire.
D'ailleurs, quand Marie dit, elle est commissaire, mais il y a un commissaire en chef qui est Tartt, mais je pense que s'il avait pensé nommer une femme, je pense que Wilfrid Laurier aurait nommé Joséphine. Il aimait bien Wilfrid Laurier, je crois. Donc, elle est là et lui, il va la rejoindre quand elle est en 1900 à l'Exposition universelle. Et il va en même temps, pour la première fois, mais comme observateur, à l'UIP, l'Union interparlementaire pour la paix. Il n'y avait pas de Société des Nations à l'époque. Là, on est en 1900. Et là, il rencontre plein de monde. Il fait la connaissance de Anoto, de plusieurs personnes qui vont être de son côté pour sa nomination à la présidence de la Société des Nations. Alors, en 1924, pour la première fois, il va aller à la Société des Nations comme vraiment dans la délégation du Canada. Et il va être nommé en 25, il va être nommé président pour une année. C'est une année à l'époque. Et là, au moment du souper, avant que les gens votent, là, il y a un billet qui circule. Nous allons nommer un Canadien pacifique. Parce que il y a la construction du train, un petit clin d'œil. Là, il est nommé et il va faire un travail colossal à la Société des Nations avec une perspective, comme dit Marie, qui sort de la diplomatie gouvernementale, qui tombe dans le social, qui tombe dans le droit, qui tombe dans... Alors, il y a une conception très large de la diplomatie. Il dit, on ne fait pas seulement la paix avec des tanks, on fait la paix aussi en faisant en sorte que les nations se parlent, les négocient, etc. Donc, c'est ça, c'est sa philosophie absolument géniale, là.
Oui, c'est tout à fait intéressant, mais malheureusement pour lui, 1925 est également marqué par une très mauvaise nouvelle.
Oui, le décès de...
Oui, bien, c'est ça, Joséphine, qui était finalement une femme qui est devenue très malade à partir de 1910, qui est souvent immobilisée, qui est fort bien soignée, ce qui lui permet sûrement de survivre jusqu'en 1925. Même si elle écrit, elle a des sursauts, puis elle est bien... Mais elle décède et, probablement que... on dit d'une simple grippe, mais des grands malades comme ça ont perdu toute résistance. Elle décède. Donc, Raoul va continuer sa carrière... Et c'est exactement l'année où il préside l'Assemblée de la Société des Nations. Ouais. Mais continue sa carrière. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est là que l'on voit qu'il n'avait pas besoin de ça. C'était pas pour faire plaisir à Joséphine, qui était féministe, parce qu'il continue, il fait venir la directrice du Bureau international des femmes pour rencontrer des femmes canadiennes. Et c'est intéressant parce que c'est toute la circulation des droits internationaux, du travail, et il fait tout... s'implique aussi dans le dossier de toute la question de la nationalité des femmes mariées, qui est un énorme problème après la guerre.
Les minorités.
Des minorités, des nationalités, quand on se retrouve avec des pays qui n'existent plus ou est-ce que, des pays en guerre. Et ça, c'est un travail qu'il mène avec des associations féminines et fait venir, finalement, des militantes féministes d'un peu partout sur la planète en lien avec les associations. Alors, c'est là qu'on voit que c'était une conviction profonde de sa part. Et là où sa carrière change aussi, c'est avec le décès de Laurier. C'est lorsque Mackenzie King devient premier ministre du Canada, Laurier devient le leader, c'est-à-dire Raoul Dandurand devient le leader du Parti libéral au Sénat. Ce qui veut dire que dans les faits, il devient un ministre sans portefeuille. C'est, alors que du temps de Laurier, cela ne serait jamais arrivé, il est à toute fin utile, le ministre des Affaires étrangères de Mackenzie King, parce qu'il n'existe pas à ce moment-là de ministère des Affaires.
C'est Mackenzie King qui a gardé le portfolio, puis c'est Raoul.
Oui, c'est-à-dire, c'est ça. Le premier ministre garde, ça n'existe pas, le premier ministre garde cette fonction et qu'il délègue. Donc, il délègue ses dossiers internationaux sur le continent européen à Raoul, qui, à ce moment-là, a une carrière vraiment beaucoup plus proche du politique. Et peut-être qu'après le décès de Joséphine, on le voit moins intervenir socialement sur la scène publique, sauf pour un dossier.
Lequel?
L'éducation encore.
Ouais. Qui... Oui, là, c'est, il va faire ça, l'œuvre dont il a toujours rêvé, un collège laïque, le collège Stanislas de Montréal.
Mm-hmm.
Pas tout à fait laïque, parce qu'il doit quand même avoir l'autorisation du clergé, mais il y aura les professeurs laïcs, et il dit que c'est la plus grande œuvre de sa vie. Et de ce collège est très fier de ça, qui ouvre en 1938. Et il dit aussi, je trouve cette phrase très intéressante, quand il y a énormément de témoignages quand Joséphine meurt et tout ça, et il y a des lettres qu'on a retrouvées, et dans une lettre, il dit « J'ai perdu la compagne qui, durant 40 ans, m'a donné le meilleur de sa pensée et de son cœur. »
Ouais. Effectivement, on voit qu'il était très épris d'elle et que, bon, c'était réciproque. C'est malheureusement tout le temps qu'on avait ce soir. Je pense qu'on aurait pu vous garder toutes les deux pour deux heures pour parler de ces deux vies riches et passionnantes, mais on va plutôt inviter nos auditeurs à se procurer la biographie Joséphine Marchand et Raoul Dandurand, Amour politique et féministe. Merci beaucoup à toutes les deux.
Ça nous a fait plaisir.
Ça nous a fait plaisir.
Et sur ça, eh bien, on se quitte en musique avec le Liberame dominé de le Requiem de Lorenzo Ponzi. Le 5 mars 1925, lors des funérailles de Joséphine Marchand, on entonne la chorale de la paroisse entonne ce Liberame. Une douzaine d'années plus tard, lorsque Raoul Dandurand sera également inhumé, eh bien, on va de nouveau interpréter le Requiem de Lorenzo Parodi. Et donc, on se laisse là-dessus et on se dit à la semaine prochaine.
entre toi et moi, c'est la nouvelle émission sans tabou à ne pas manquer cet automne.
Rejoins-nous chaque mercredi de 9h à 10h sur les ondes de Chiz 94.3.
Vous ou un proche vivez avec une perte de vision? Peu importe où que vous soyez dans votre cheminement, la Fondation INCA est là pour vous. Que ce soit des formations en technologie adaptée, des groupes d'entraide, des activités éducatives pour les jeunes ou du soutien à l'emploi. Nos programmes gratuits permettent aux personnes touchées par la perte de vision de vivre la vie qu'elles ont choisie. Visitez inca.ca ou appelez-nous au 1-800-465-4622.
C'est le moment de s'inscrire à la 11e édition du Cabaret Festif. Prestations rémunérées, plus de 35 000 $ en prix et en bourse, des shows partout au Québec et plus encore. Inscription ouverte jusqu'au 12 décembre via le www.lefestif.ca/cabaret.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
Voyons, comment ça marche pas? Hey Sophie, essaye donc de chasamer la toune qui joue à radio.
Ça dit que c'est... Cain.
Cain? Hey boy, on est loin d'embarque ma belle.
Quand vous vous demandez...
C'est quoi cette toune-là?
Ne faites pas comme Adrien et Sophie. Allez plutôt sur chiz.ca et cliquez sur l'onglet Musique diffusée. Bonne écoute.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada.